avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La traque aura duré 48 heures. Shérif Shekat, l'auteur présumé de l'attaque à Strasbourg, a été abattu hier soir. Une passante puis des policiers l'ont reconnu dans une rue du quartier de Neudorf. Nous reviendrons sur ces dernières heures de recherche et nous analyserons la revendication du groupe État islamique dans la foulée, revendication opportuniste.
Et alors qu'une trêve est annoncée au Yémen, les sénateurs américains veulent que leur pays se retire de la coalition sur place. Ils accusent formellement Riyad d'être responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Nous y reviendrons.
Un témoignage aussi d'une patronne argentine. Cette année, exceptionnellement, le pays doit payer une prime de 5000 euros aux salariés pour compenser l'inflation record.
Une nouvelle journée de mobilisation se profile ce vendredi. La CGT appelle à la grève pour plus de pouvoir d'achat. Les enseignants se mobilisent aussi contre la réforme du baccalauréat.
En cette fin d'édition, zoom sur le manque d'eau en Irak en ce moment. Sécheresse, guerres et barrages ont épuisé la région de Bassora, provoquant une colère sociale. Dans un gros quart d'heure, Stéphane Robert nous rejoindra pour le billet politique consacré ce matin au bal des prétendants à gauche. Shérif Shekat est donc mort, abattu hier soir à Strasbourg dans le quartier du Neudorf, là où les enquêteurs avaient perdu sa trace 48 heures plus tôt. Ce sont trois policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain, qui l'ont reconnu lors d'une opération de ratissage. Shérif Shekat a ouvert le feu, les policiers ont riposté et l'ont donc abattu. L'attaque mardi soir a fait 3 morts, 13 blessés. La traque ce matin est donc terminée. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Une traque qui s'est appuyée pour la première fois sur un appel à témoins.
Oui, un appel à témoins qui a contribué à localiser le fuyard dans ce même quartier du Neudorf où la police avait perdu sa trace mardi soir. C'est une habitante du quartier qui appelle les enquêteurs. Hier après-midi, elle signale un homme blessé à un bras qui ressemble à la photo diffusée par les autorités. Un vaste dispositif de recherche se met alors en place. Un hélicoptère doté d'une caméra thermique survole la zone et Shérif Shekat est finalement repéré par une brigade de 3 policiers de la BSP, la brigade spécialisée de terrain de la ville de Strasbourg. Au moment où il l'interpelle, le suspect se retourne, fait feu sur les fonctionnaires qui ripostent aussitôt. L'homme est abattu, l'arme à la main. Aucun des policiers n'a été blessé.
Et Florence, comme une revendication, le groupe État islamique a présenté hier soir Shérif Shekat comme l'un de ses soldats.
Oui, une revendication que plusieurs spécialistes qualifient déjà d'opportuniste compte tenu d'un certain nombre d'éléments de contexte. Elle intervient, vous l'avez dit, juste après la mort du tueur de Strasbourg. Le groupe État islamique le présente comme l'un de ses soldats qui a mené cette opération en réponse à l'appel à viser les citoyens de la coalition internationale, mais sans donner aucun élément de preuve, aucun détail supplémentaire, comme ce fut le cas à plusieurs reprises par le passé. Aucune preuve donc que l'action contre le marché de Noël de Strasbourg avait été précisément commandité. Le groupe État islamique, par ailleurs très affaibli en Syrie et en Irak, rappelle le politologue Assia Maldifraoui.
L'État islamique a une machine de propagande très affaiblie, en recul sur le terrain, presque défait militairement. Donc, tout l'État islamique a vraiment besoin de la propagande. Il y a une symbiose entre l'acte désespéré d'un jeune criminel qui veut donner de l'ampleur à sa folie meurtrière et l'État islamique qui a vraiment besoin de faire la propagande.
Shérif Shekat, délinquant multirécidiviste radicalisé dont les services de renseignement français n'avaient détecté aucun signe imminent de passage à l'acte, mais plusieurs témoins l'ont entendu crier à la Wakbar en tirant sur les passants. Alors à défaut désormais de pouvoir l'entendre sur ses motivations, l'enquête se poursuit néanmoins pour déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. 5 de ses proches sont toujours placés en garde à vue.
Merci Florence Turme. L'ONU obtient une trêve au Yémen dans des régions menacées par la famine. Depuis quelques jours, des consultations de paix se déroulaient en Suède. L'accord trouvé hier a été âprement négocié entre les belligérants. Il concerne notamment le port de la mer Rouge d'Odeida, où entre les essentiel de l'aide humanitaire au Yémen. Fin janvier ensuite, les rebelles houthis et les représentants du gouvernement devraient se revoir pour imaginer cette fois un possible règlement politique de ce conflit. Mais François Frison-Roche veut rester prudent, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de transition démocratique. Il estime que le rapport de force entre les négociateurs s'est presque inversé.
Je dois dire que ces accords me laissent assez perplexe dans la mesure où on est dans une certaine fiction. Fiction parce que les rebelles houthis, bien sûr, sont reconnus après 3 ans et demi de guerre et que ce sont des acteurs essentiels et incontournables du conflit yéménite. Et de l'autre, cela me laisse perplexe parce que le gouvernement reconnu internationalement j'allais dire, ne représente que lui, parce qu'on sait très bien que ce gouvernement n'est absolument pas crédible sur le plan intérieur. Car, soyons clairs, à Stockholm, on est en train de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse arriver rapidement pour secourir 18 millions de personnes qui sont en état de quasi-famine. Et je ne parle pas évidemment des pandémies comme le choléra, etc.
François Rizon-Roche, interrogé par Omar Ouaman. Voilà donc pour l'urgence au Yémen en ce moment. Alors qu'hier, le Sénat américain a adopté deux résolutions qui concernent justement cette guerre civile au Yémen. Les sénateurs américains demandent à ce que les États-Unis se retirent de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Grégory Phillips.
Devant ses collègues, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, dit que la situation au Yémen est le pire désastre humanitaire de la planète. Sur un chevalet, il a posé la photo quasi grandeur nature d'un enfant au corps décharné par la famine. Puis par 56 voix contre 41, les sénateurs des deux bords votent cette résolution qui demande au président des États-Unis de retirer les forces américaines engagées dans la région et d'arrêter de soutenir militairement le régime saoudien. Un peu plus tôt, le même Sénat avait voté une autre résolution condamnant le prince héritier Ben Salman et le désignant nommément comme étant le commanditaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Ces deux résolutions sont évidemment symboliques. Elles ne passeront pas devant la Chambre des représentants avant la rentrée parlementaire de janvier. Et surtout, Donald Trump a le pouvoir d'y mettre son veto. Lui qui n'a jamais explicitement condamné le prince MBS, lui qui veut soutenir jusqu'au bout le régime saoudien, se trouve sur cette question de plus en plus isolé, même au sein de sa majorité.
Vers une extradition de Cesare Battisti en Italie, cette nuit, un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné l'arrestation de l'ancien militant d'extrême gauche avec pour objectif de l'extrader donc vers l'Italie. Cesare Battisti, qui clame son innocence, a été condamné par contumace en Italie pour 4 assassinats dans les années 70. Il appartenait alors aux prolétaires armés pour le communisme. Évadé de prison en 81, Battisti s'était réfugié en France avant de fuir en 2004 vers le Brésil. Partons maintenant en Argentine, où les prix ont augmenté de 50% en un an. Conséquence d'une crise de confiance qui a fait fuir les capitaux étrangers du pays, déclenchant une crise de change, poussant une nouvelle fois le gouvernement argentin à faire appel au FMI, le Fonds monétaire international. Alors aujourd'hui, comment les Argentins s'adaptent-ils à cette inflation de 50%? Comment vit-on dans un pays à deux monnaies, le peso et le dollar? Un pays où l'on emprunte à plus de 60% quand on est une entreprise et où cette année, il faut payer exceptionnellement une prime de 5000 pesos aux salariés pour compenser cette inflation record. Marie Vienno est allée sur place en Argentine avec toutes ces questions à la rencontre de la population et elle a rencontré notamment Sylvina, patronne de plusieurs pressings à Buenos Aires.
Là, on a déjà mangé 20% sur leur salaire. Alors, les 5000 pesos que tout le monde se plaint des primes qu'on doit donner maintenant, ben c'est tout à fait juste. Tous les salaires, ils ont un écart avec l'inflation. Comment on peut se plaindre de donner 5000 pesos? Ça m'étonne toujours, cette mentalité très égoïste et voyou. Surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on ne paye pas à l'État, c'est qu'on doit à l'État. Ça, c'est... Mais le noir que fait ces pays, c'est inenvisageable. Inenvisageable. Mais moi, j'ai beaucoup de mes collègues, ils ont les filles, ils payent la moitié de la fille au noir et la moitié en blanc. Ça, c'est un vrai problème du pays. Hein. Ça, on ne s'en sortira pas facile. Hein.
Est-ce que vous avez déjà eu à faire des emprunts aussi pour votre activité ou pas?
Oui, oui, ces deux machines, je les ai achetées avec un emprunt. Ça coûte très cher ici, les crédits. On paye presque le double. Si on emprunte 500 000 pesos, on paye 1 000 000.
Voilà. Hola, Janina, comment
bon
va?
Matin.
Tanto tiempo. ¿Cómo andas? Sí, hace un montón. Bueno, alegre.
Argentine, vivre avec 50% d'inflation, c'est donc un grand reportage que vous pourrez écouter en longueur à partir de 17h ce soir sur France Culture. Il a été réalisé par Marie Vienno grâce à Annie Brault. Et dans la foulée, Sébastien Velu, ancien directeur de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, sera l'invité de Marie Vienno et d'Aurélie Kiefer.
Oui, mais avant cela, puisqu'il n'est pas 17h mais 8h10 sur France Culture et que vous écoutez le journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins, la question du pouvoir d'achat secoue aussi la d'actualité en France.
Oui, avec les gilets jaunes et la question d'un éventuel cinquième week-end de mobilisation demain. Après l'attaque à Strasbourg, le gouvernement appelle toujours les manifestants à ne pas aller à Paris ce samedi. Et puis aujourd'hui, vendredi, les transports s'annoncent perturbés en raison d'un appel à la grève chez la CGT, une journée de mobilisation pour réclamer une hausse des salaires, des pensions et de la protection sociale. S'associe également à cette journée de mobilisation aujourd'hui les syndicats Solidaires, Sud, l'UNEF ainsi que la FSU, premier syndicat dans l'éducation nationale. Les professeurs sont comme les lycéens depuis près de 3 semaines mobilisés contre la réforme du baccalauréat. Une réforme sans moyens, dénonce Thierry Ananou, professeur d'économie au lycée Claude Monet à Paris et syndiqué au SNES.
Nous, ce qu'on espère, c'est vraiment une remise à plat complète. Parce que nous pensons que cette réforme, elle va dans le sens d'une hyper-sélection, d'une présélection des élèves dès la seconde dans la perspective de leur orientation post-bac. C'est-à-dire on ne laisse plus le choix à des élèves de 15 ans de choisir, de tester, de former le goût aux études. L'ancienne, c'est toujours la même, c'est l'école coûte cher.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut bien à un moment donné peut-être améliorer les études pour que les jeunes puissent trouver un emploi ?
Parce que les entreprises manquent d'étudiants ou de personnel qualifié. Quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'essentiel, entre guillemets, des trous, hein, c'est dans les métiers non qualifiés. Les entreprises sont devenues aujourd'hui très sélectives dans leurs qualifications. Ils sont aussi un peu perdus parce que depuis des années, ils ont cassé le système qui permettait une adéquation entre les diplômes et les professions et les qualifications. Alors évidemment, maintenant, ils sont en difficulté de recrutement. Mais la raison n'est pas celle de la formation. Les entreprises doivent aussi s'interroger sur leurs exigences.
Le professeur d'économie à Paris, Thierry Ananou, il répondait à Cécile de Kervas-Doué. L'heure est à l'amertume en Gironde, à Blanquefort et dans les rangs du gouvernement. Le groupe automobile américain Ford rejette le projet de reprise déposé par un groupe franco-belge Punch Power Glide, un projet de reprise pour l'usine à Blanquefort. Punch Power Glide prévoyait de reprendre la moitié des 850 emplois. Les syndicats l'avaient accepté, mais Ford juge cette offre trop fragile. Le site devrait donc fermer totalement en août prochain, malgré les appels répétés du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il qualifiait hier cette décision américaine de trahison. Même réaction pour sa secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher.
Cette décision est stupéfiante. Ford est dans cette négociation depuis des mois. Les salariés Punch ont pris leurs responsabilités et ont monté un scénario de reprise crédible. Et voilà que Ford, avec le plus grand cynisme, nous signifie que, de son point de vue, ce projet n'est pas crédible. On ne sait pas avec quel argument, on ne sait pas d'où cela sort. Et en tout état de cause, je trouve que c'est s'essuyer les pieds sur le sort de ces salariés, où il nous dit que pour leur bien, il va fermer l'usine. Je n'ai jamais entendu une chose pareille.
Comment allez-vous faire pression ?
Le ministre de l'économie et des finances, cela fait 3 jours qu'il cherche à joindre Ford, qui n'a pas pris la peine de l'appeler. Il y a encore une possibilité pour eux de changer d'avis et j'espère que Ford va prendre ses responsabilités parce que cette attitude est absolument inadmissible. Lorsqu'on a bénéficié d'autant de subventions publiques depuis des années, lorsqu'on a la responsabilité d'un site de 850 personnes, on ne peut avoir ce type d'attitude sur notre territoire.
Agnès Pannier-Runacher, interrogée par Élodie Forêt. Jusqu'à 4 mois de prison ferme pour les 7 Briançons. Le tribunal de Gap a estimé hier que ces militants avaient facilité l'entrée en France de réfugiés. Les plus lourdes peines sont pour 2 Français déjà condamnés par le passé et poursuivis également pour rébellion. Tous vont faire appel. La crise de l'eau à présent en Irak. Le pays subit la sécheresse mais également les barrages construits par la Turquie sur le Tigre et sur l'Euphrate. Des barrages qui réduisent dramatiquement la quantité d'eau disponible pour la population irakienne. Christian Chéneau.
En 2018, l'Irak a connu sa pire sécheresse depuis 8 ans. Un phénomène climatique aggravé par la multiplication de barrages en Turquie. En contrôlant les sources du Tigre et de l'Euphrate, Ankara détient la clé du robinet d'eau qui s'écoule vers la Syrie puis l'Irak, qui connaît un stress hydrique, reconnaît Hassan Jenabi, ancien ministre irakien des ressources hydrauliques.
Les barrages ont été construits au cours des 30 dernières années en Turquie et plus récemment par l'Iran. Le problème, c'est que tous ces barrages ont été réalisés sans aucune consultation avec nous. Nos voisins gèrent ces ouvrages ainsi que le débit de l'eau selon leurs propres besoins, sans prendre en compte ceux de l'Irak.
Le barrage d'Ilusu, situé à 70 km de la frontière turco-irakienne, a été mis en eau en juin dernier. Son impact a été dévastateur sur la population irakienne et les écosystèmes, explique Fadi Komer, expert des questions hydrauliques.
Il y a eu des émeutes pour l'eau cet été. On a connu donc une éradication complète des poissons. La salinité de l'eau a énormément augmenté, d'où l'eau est devenue donc inaccessible aux agriculteurs, inaccessible aussi aux stations de traitement de l'eau potable pour les Irakiens.
Après la crise des réfugiés qui ont fui Daesh, le manque d'eau en Irak, redoute Fadi Komer, pourrait bien aussi provoquer une vague de déplacés climatiques.
Entre retard, désaccords et pression de toutes parts, la COP24 en Pologne se prépare à une dernière journée assez intense, avec peut-être à la clé l'espoir d'un accord ambitieux pour appliquer l'accord de Paris. Les négociateurs ont reçu hier soir une nouvelle version du projet. Ils doivent encore ce vendredi trancher sur les points clés pour toujours limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Le temps restera couvert sur les Pyrénées ce vendredi avec quelques pluies intermittentes partout ailleurs. Sur le reste de la France, Météo France prévoit un très beau soleil avec des températures encore fraîches, voire des gelées ce matin de la Normandie jusqu'en Rhône-Alpes. Il fait ainsi moins 3 degrés à Amiens, moins 2 degrés ce matin au Havre, comptez moins 1 à Nantes, Paris, Besançon, 0 à Lyon, 3 degrés à Bordeaux, 9 à Perpignan, 11 tout de même sur la Corse.